Bonjour. Une chose que j'ai oubliée la semaine dernière, je vous ai parlé donc la semaine dernière de modèles de vertex. Je n'ai pas fait l'historique de ça, j'ai un peu oublié. Et en plus, j'ai appris des choses depuis. Donc pour moi, les premières personnes à avoir fait des modèles de vertex, c'était François Graner, qui maintenant est à l'université Paris Diderot. Université de Paris, ça s'appelle. Et puis un Américain qui s'appelle Jim Glazier. En fait, en discutant avec Areski Boudaoud, je me suis aperçu qu'il y avait des travaux sur les modèles de vertex bien avant. J'ai mis cette image ici, c'est un groupe japonais dans les années 80. Le premier auteur est M. Honda. Et ce qu'ils étudient, donc, c'est la transformation de ces cellules au cours du développement, qui est un épithélium de l'oviducte des oiseaux. Ce qui les intéresse, c'est qu'aux instants initiaux, il y a un réseau qu'ils appellent un réseau de Kagome. Ce qui caractérise ce réseau de Kagome, c'est qu'il y a des grosses cellules qui sont entourées de petites cellules. Et puis, quand ils regardent ce réseau évoluer au cours du développement, on arrive à la fin à un pavage, alors que j'ai mis carré, qui n'est pas vraiment carré, hein, c'est des rectangles et des rectangles déformés. Et ce qu'ils voulaient expliquer, c'est la façon dont on peut passer de ce réseau-là à ce réseau-là, en utilisant, donc, longtemps avant tout le monde, le type de modèle que j'ai discuté la dernière fois. Si je reviens, pour résumer peut-être en une seconde le cours de la dernière fois, ce que je vous ai montré, c'est que si je cherche l'état fondamental d'un tissu, c'est-à-dire celui qui minimise l'énergie mécanique que je vous ai introduite, il y a en gros deux paramètres. Il y a ce que j'ai appelé la tension de ligne, ça c'est la tension des jonctions entre les cellules, sans dimension, et puis il y a un deuxième paramètre qui est le paramètre que j'avais appelé gamma bar, qui dit comment cette tension de ligne varie avec le périmètre. Et donc j'avais tracé un diagramme de phase. Alors si on oublie les détails, on peut se contenter de celui-là. Il y a deux régions. Ici, il y a un réseau que j'ai appelé un réseau mou. L'état fondamental est fortement dégénéré. Et il y a beaucoup de modes mou, donc ça coûte pratiquement aucune énergie de déformer ce réseau. Et puis il y a un réseau qui est un réseau hexagonal de cellules que vous voyez schématisé ici. Alors, la première chose que je veux faire aujourd'hui, c'est discuter non pas l'état fondamental, mais un tissu en croissance, parce qu'à la fin, c'est ça qui nous intéresse. Et puis, je vais essayer après de justifier ces modèles-là par un modèle, alors que je vais traiter de façon très très simple, mais qui est un tout petit peu plus sophistiqué, où je vais vouloir garder la trace du fait que la cellule, ce n'est pas quelque chose qui est en surface, mais que la cellule a un volume, donc il y a une hauteur perpendiculaire à la surface de l'épithélium. Donc, c'est ça le programme du cours pour aujourd'hui. Alors, ce premier paragraphe, je l'ai appelé. Est-ce que vous voyez ou est-ce qu'il faut faire allumer le. Non. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière près du tableau? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout un tissu dans son état fondamental, c'est un tissu en train de croître. Je vais appeler ça un tissu en croissance. Alors, ce tissu en croissance, il n'a pas du tout, même dans la région de paramètres, qui est la région où dans l'état fondamental, ça serait une structure hexagonale. Il n'a pas du tout cette structure hexagonale, c'est quelque chose qui est désordonné, et c'est quelque chose où il y a des cellules avec des nombres de côtés qui varient entre 3 et 7 ou 8. Je vous rappelle que s'il y en a des plus de 3, il faut qu'il y en ait de plus de 6, parce que la moyenne, ça doit être 6. Donc on respecte ces règles-là. Mais donc c'est un tissu désordonné, et pas seulement des hexagones. Alors comment est-ce qu'on passe d'un tissu qui est un réseau hexagonal comme ça, quelque chose qui est désordonné, il y a des polygones qui sont autre chose que des hexagones, mais dans un tissu, il y a ce que je vais appeler des processus actifs. Alors le processus actif, c'est la division cellulaire. Les cellules doivent grossir et doivent se diviser. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle le tissu est actif. Hein. Je vous rappelle que ce que j'appelle actif, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie à l'échelle de ses composants. Il est absolument évident que les cellules consomment de l'énergie et toute la consommation d'énergie intervient dans le fait que le tissu est actif, mais pour que les cellules se divisent, elles ont besoin qu'on leur donne de l'énergie. S'il n'y a pas de nutriments, les cellules ne se divisent pas. Donc ça va être ça, le processus actif fondamental. Et puis, il y a des réarrangements topologiques. Alors, j'ai parlé la dernière fois de la physique des mousses à deux dimensions. Les gens des mousses à deux dimensions avaient très bien étudié ces réarrangements topologiques. Ils sont de deux types, les processus qu'on appelle T1 et les processus qu'on appelle T2. Alors, le processus T1, c'est un échange de voisins. Alors, je vais le schématiser en dessinant qu'une partie des jonctions. Hein. Ça fait intervenir quatre cellules à deux dimensions. Je vais prendre des cellules. Vous pouvez imaginer des cellules qui sont hexagonales, par exemple, de tous les côtés. Et puis, ce que je vais faire, c'est réduire ce côté-là je vais arriver à un vertex à quatre branches. Je vous rappelle que j'ai dit que les vertex à quatre branches n'étaient pas stables. Donc il va être instable et il va se transformer en quelque chose comme ça. Ici, ces deux cellules-là étaient voisines. Ici, elles ne sont plus voisines. Par contre, ces deux cellules-là n'étaient pas voisines. Et ici, elles sont devenues voisines. Donc ça change la topologie du réseau, ce processus-là. Ça a été étudié très en détail. Un très beau travail, c'est le travail de Thomas Lecuy. Alors, il y en a d'autres, hein, mais comme c'est mon collègue au Collège de France, je vais donner la priorité à Thomas Lecuy. Si votre tissu est orienté ou s'il y a des contraintes, évidemment, vous allez créer les processus T1, surtout dans cette direction-là, si vous tirez dans cette direction-là. Ce qu'a étudié Thomas Lecuy, c'est l'élongation de la bande germinale de la drosophile. Alors, je ne veux absolument pas vous faire des grands discours sur la biologie du développement, et j'en suis pas très capable. La seule chose que je veux dire, c'est que si vous faites toujours les processus T1 dans la même chance, dans le même sens, il est clair qu'en le faisant dans ce sens-là, on va allonger le tissu dans cette direction-là. Il s'avère qu'au cours du développement de la drosophile, il y a cette étape qui s'appelle l'élongation de la bande germinale, où le tissu a besoin de s'allonger. Et ce qu'a montré Thomas Lecuy, c'est que ça se fait par ces processus T1 que je suis en train de décrire ici. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais ça, c'est un des types de processus qui changent la topologie du tissu. Le deuxième, c'est les processus T2. Alors ça correspond à la mort cellulaire. Alors, je ne vais pas distinguer, parce que pour ce que je raconte, ça n'a pas tellement de différence entre ce qui est vraiment une mort cellulaire ou une extrusion des cellules du tissu. Si les cellules sont expulsées perpendiculairement à l'épithélium, la seule chose qui est importante pour moi, c'est qu'elles disparaissent de l'épithélium. Donc je ne vais pas distinguer ça. Dans ces modèles de vertex, la façon dont ça se fait, c'est que par des transformations, notamment des transformations de type T1, les cellules vont réduire leur nombre de côtés et on va arriver à des cellules triangulaires. Et après, dans certains cas, ces cellules triangulaires sont instables, donc elles vont s'effondrer pour faire disparaître la cellule en question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus T2. Soit la cellule meurt, soit la cellule est expulsée du tissu. Alors cela, on peut faire une étude un tout petit peu plus quantitative. Alors je vais revenir à l'image qui est là. Et je vais regarder les deux petits régimes dont je vous ai parlé ou qui sont stables dans une toute petite gamme de paramètres ici. Et en particulier, cette phase-là que j'ai appelée un réseau 312. Alors le réseau 312, si je le schématise, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais le faire là. Ici, j'aurai des cellules hexagonales. Puis celui-là est aussi coupé par un triangle, etc. Donc pour chaque hexagone, je mets 12 triangles. Ce qu'on sait faire, et ça c'est quelque chose qui est relativement simple, c'est calculer l'énergie de cette structure-là, et on peut regarder comment l'énergie varie en fonction de la taille des tout petits triangles qui sont ici. Alors, je ne vais pas vous faire ce calcul, ni même vous donner le résultat, mais le résultat c'est qu'il y a en gros trois types de triangles. Il y a des triangles qui sont stables, et les triangles qui sont stables, c'est ceux qui sont ceux d'énergie minimaux, c'est ceux qui réalisent la phase 3-12 d'équilibre que je vous ai montré la dernière fois. Il y a des triangles qui sont métastables, ça veut dire qu'ils sont dans un minimum local de l'énergie et que le minimum absolu, c'est les hexagones réguliers qui sont en dessous. Et puis, il y a des triangles qui sont instables. Ça, c'est ce qu'on obtient loin de la ligne où ces triangles stables existent. Si on est loin de cette ligne, les triangles deviennent instables et ils disparaissent spontanément. Il n'y a pas besoin d'injecter d'énergie dans le système. Spontanément, un triangle qui a envie de se former et qui est instable comme ça va se collapser sur lui-même, ce qui correspond à une mort cellulaire. Donc ça donne un critère qui n'est peut-être pas entièrement rigoureux, parce que j'ai supposé que la structure était régulière ici, mais ça donne un critère pour la disparition spontanée des triangles et pour l'apparition spontanée de ces processus que j'ai appelés T2 ici. Alors, je vais passer un tout petit peu plus de temps sur le troisième processus, qui est la division cellulaire. Si je veux le faire strictement, il y a deux étapes, comme je vous disais dans le premier cours. Il y a une croissance cellulaire, et après, il y a une division cellulaire. Alors, dans mon modèle de vertex, comment est-ce que je vais imposer la croissance? Je vous ai dit, chaque cellule a une aire de référence, et pour l'instant, j'ai pris toutes les cellules avec la même aire de référence. Si je veux imposer la croissance, l'aire de référence, si je l'appelle A0, la cellule, juste avant de se diviser, elle doit avoir une aire qui est deux fois A0. Et c'est assez bien vérifié expérimentalement, comme je vous le disais au début, parfois c'est un peu plus, mais juste avant de se diviser, comme on veut que le tissu soit dans un état stationnaire, il faut absolument que la cellule ait une aire deux fois le volume initial. Donc ce que les gens font dans ces modèles de vertex, c'est que quand ils veulent créer la croissance, ils multiplient l'aire de référence par deux. Alors ça, c'est un processus actif, parce que ça ne se produit jamais spontanément, ça, hein. Donc il faut que je le fasse de l'extérieur, et c'est là qu'il faut injecter de l'énergie. Donc je ne triche pas, il faut que le tissu consomme de l'énergie. Quand je fais ça, je change de l'énergie. En gros, s'il n'y avait pas les contraintes de toutes les cellules qu'il y a autour, si l'aire de référence est deux fois plus grande, la cellule va croître et va en gros croître à deux fois l'aire qu'elle avait au départ. Donc j'ai une grande cellule, et puis après, ce que font les gens, c'est qu'ils choisissent une direction aléatoire, ils coupent la cellule en deux, et puis ça devient deux cellules différentes, ça devient deux cellules qui chacune ont une aire de référence à zéro. Donc je commence à la faire croître en multipliant l'aire de référence par deux, puis après je la répartis entre les deux cellules, et chacune a une aire de référence à zéro. Ça, c'est le processus, disons, qui copie un peu le processus biologique, ce que montrent tous les gens, en particulier cet article de M. Staple, mais ils sont absolument tous d'accord là-dessus, c'est qu'il y a une façon plus simple de le faire et qui donne à peu près exactement le même résultat même, c'est de décider qu'on va diviser une cellule, de la couper en deux. Donc cette fois, je ne la fais pas croître. Donc je prends une cellule au hasard. Alors je la dessine exprès de 5 côtés pour bien insister sur le fait qu'elle n'en a pas forcément 6. Je la coupe en deux et sans l'avoir fait croître, j'impose à chacune des deux cellules d'avoir une aire de référence qui est à zéro. Quand j'ai juste coupé, les deux cellules sont plus petites. Du fait que j'impose une aire de référence qui est plus grande, elles vont croître. Et si on regarde sur des temps assez longs, ce processus-là et ce processus-là donnent exactement la même chose. Une chose qui est importante, c'est que si je fais ce processus-là ou ce processus-là ou ce processus-là, juste après le changement topologique, le tissu n'est pas à l'équilibre. Donc il faut que le tissu relaxe. Le tissu relaxe, dans ces cas-là, mais en regardant la position de tous les vertex du modèle et en imposant que la force est nulle, c'est-à-dire en cherchant le minimum local de l'énergie qui est le plus proche du tissu que j'ai généré par les processus topologiques. Donc il y a une relaxation locale par des preuves. Si je fais une division cellulaire, il se peut qu'en faisant ma division cellulaire, je crée des cellules qui deviennent instables. Alors je vais parfois créer, si je ne la faisais pas comme ça, mais que je la faisais comme ça, je créerais des vertex à 4 branches. Donc ceux-là, j'ai dit qu'il fallait les réarranger par des processus T1. Ceux-là, je peux les éviter. Mais je vais créer, en créant ma division cellulaire, des cellules qui sont instables. Alors elles sont instables parce qu'un des côtés devient trop court, par exemple. Et si le côté devient trop court, ben ça va déclencher des processus T1. Donc la division cellulaire, elle va déclencher des processus T1 et elle va déclencher des processus T2. Alors ce que font les gens, et là je n'ai pas du tout de petit argument analytique à vous donner, c'est qu'ils font un travail numérique. Alors ils se donnent une configuration de départ, et en général le résultat qu'ils obtiennent ne dépend pas de la configuration de départ. On peut partir de ce réseau hexagonal par exemple. On fait diviser les cellules, ce qu'on veut c'est que le tissu croisse, donc on force les cellules à se diviser. Les cellules qui se divisent, ça va imposer des processus T1 et T2, et puis au-dessus de chaque processus T1 et T2, ça va imposer un réarrangement local par déplacement des vertex. Et puis une fois qu'ils ont fait tout ça, donc la division cellulaire, les processus T1 et T2, et puis le réarrangement local, la cellule a atteint un autre état métastable. Ce n'est pas l'état fondamental, parce que l'état fondamental, c'est les hexagones. Et on recommence, on met une deuxième division cellulaire, on fait relaxer autour de la deuxième division cellulaire, etc., et on fait croître le tissu comme ça. Le point sur lequel je veux insister, c'est que ce processus ne décrit pas la dynamique du tissu. C'est-à-dire, je fais les divisions cellulaires une par une. Alors, on choisit, bien sûr, les cellules qui se divisent de façon aléatoire dans le tissu, mais en aucun cas ça ne décrit la dynamique du tissu. C'est un processus quasi-statique qui, à chaque transformation, relaxe vers un minimum local de l'énergie. Et puis, quand on a fait pas mal de divisions cellulaires, le tissu a cru, parce qu'on a rajouté des cellules, et de la façon dont je l'ai fait, les seules cellules qui meurent, c'est les cellules qui meurent spontanément sans que le processus de mort cellulaire soit actif. Donc on a rajouté des cellules là, le tissu croît, et à chaque étape, je les fais relaxer vers un état de minimum local de l'énergie. L'espoir, et c'est ce que les gens trouvent quand ils font des simulations numériques, c'est qu'après un certain nombre de divisions cellulaires, le tissu atteigne un état stationnaire. Ça veut dire que la structure locale du tissu ne change pas en moyenne. Évidemment, la taille du tissu change parce que je le fais croître, mais la structure locale du tissu ne change pas. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Tous les exemples que je vais vous montrer maintenant sont générés comme ça. Ils partent d'un tissu, alors ils partent d'un tissu hexagonal ou d'un tissu où le graphe de départ est aléatoire. On crée des divisions cellulaires, une par une, et on fait relaxer le tissu à chaque étape après la division cellulaire. Et puis, quand on a fait suffisamment de divisions cellulaires, on peut mesurer ce qui se passe dans le tissu. Alors, j'ai trois exemples à vous montrer, donc c'est ce que j'ai appelé des exemples d'application. Alors, mon but là, ce n'est pas tellement de rentrer trop dans les détails biologiques, c'est de vous montrer qu'avec ça, on peut décrire les tissus de façon un peu quantitative et que finalement, on le fait avec pas trop de paramètres ajustables. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, oui, les modèles de vertex, de toute façon, comment on peut changer les tensions de tous les liens et puis l'élasticité gamma de tous les liens, on arrivera à fitter absolument tous les paramètres qu'on veut fitter, et ça ne sert pas à grand-chose. Je ne crois pas que ça soit vrai. Je crois que si on le fait bien, il y a assez peu de paramètres, et qu'en manipulant assez peu de paramètres, et en comparant de façon assez systématique avec les expériences, on arrive à avoir un accord qui est, dans certains cas, assez quantitatif, et puis dans certains cas, je dirais semi-quantitatif, en ce sens qu'il décrit au moins de façon qualitative très propre l'évolution des tissus. Donc c'est un peu ces choses-là que je veux vous montrer, c'est comment est-ce que les gens font. Donc les premières comparaisons, les premières applications que je veux vous montrer, c'est simplement la détermination des paramètres du modèle. Donc ça se passe dans le disque imaginal toujours, hein, puisque c'est ça que j'ai choisi comme exemple. Alors c'est pas bien sûr le seul exemple pour lequel on peut le faire, hein, je pense que Johannes vous montrera des exemples un petit peu différents, mais toujours dans la drosophile tout à l'heure. Celui que je vous ai montré, c'était l'oviducte des oiseaux, et l'approche est exactement la même. Ce travail, c'est le travail de quelqu'un qui s'appelle Reza Faradifar. Donc ce qu'a fait Faradifar, c'est qu'il a pris des expériences, et c'est des expériences qui viennent du groupe de Cisani-Ton, et puis il a mesuré dans ces expériences certaines propriétés géométriques du tissu. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est celle-là. Il y a deux propriétés géométriques du tissu. Donc il suppose, il balaye une grande gamme de paramètres, hein, il le fait numériquement, et puis il mesure à la fois l'aire moyenne d'une cellule de n côtés. Donc c'est ça, ça c'est l'aire moyenne en fonction du nombre de côtés, donc 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés, 7 côtés, 8 côtés, et ça c'est des paramètres différents. Et puis il regarde aussi dans le tissu la probabilité qu'une cellule ait n côtés. Donc il regarde toutes les cellules, il compte celles qui ont 4 côtés, il compte celles qui ont 5 côtés, il compte celles qui ont 6 côtés, et il trace la probabilité Pn. Je vous montre ici que ces deux propriétés-là, si vous regardez l'article original, par exemple, il regarde la fluctuation de l'air d'une cellule à n côtés par rapport à la moyenne, donc l'écart type, il regarde le périmètre, il regarde la fluctuation du périmètre, et tout ça, ça lui fait un certain nombre de données. Il prend ces données sur les expériences qui lui sont données par Cisani-Ton, il génère le tissu comme je viens de vous l'expliquer, il remesure ces données sur le tissu qu'il a généré numériquement, et puis il compare. Alors ici, il y a trois valeurs des paramètres. Peut-être le plus simple, c'est de regarder l'aire moyenne. Vous voyez que celui-là, je ne sais même pas, l'expérience est vert et la simulation, c'est rouge. Vous voyez que là, il reproduit bien l'air d'une cellule de n côtés pour tous les nombres de 4 à 8. Il y a assez peu de cellules à 3 côtés parce qu'elles ont tendance à mourir. Et au-delà de 8, il y a assez peu de cellules, donc les statistiques ne seraient pas propres. Si on change les paramètres ici, vous voyez que pour ce qu'il appelle le K2 et le K3, l'accord entre la théorie et l'expérience n'est pas bonne. Donc à choisir entre ces trois cas-là, on aurait tendance à prendre celui-là. Ici, vous avez, pareil, dans ce diagramme-là, la probabilité qu'une cellule ait un côté. Là, il y a 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis on peut comparer. Alors il considère que ça, c'est satisfaisant. Ça, ça n'allait pas, et ça, ça allait presque. Alors évidemment, comme j'ai mis la bonne réponse ici, de ce côté-là, c'est toujours satisfaisant. Ce n'est pas la seule chose qu'il fait. Ce qu'a fait Cisani-Ton, c'est qu'elle a fait des expériences d'ablation laser. Alors, expérience d'ablation laser, je vais vous montrer un film dans 2 minutes. Et ça consiste à regarder le tissu épithélial par au-dessus et à détruire une liaison du tissu épithélial avec un laser intense. Donc, on détruit une liaison. Ça revient à prendre une liaison et à la supprimer, et on regarde comment on relaxe le tissu. Et puis une fois qu'il a fait la relaxation, il mesure les mêmes propriétés et il demande à ce que l'ablation laser donne les mêmes résultats dans la théorie et l'expérience. Rien qu'avec ces trois propriétés qui sont l'aire moyenne des cellules, pour N-côté, la probabilité qu'une cellule ait N-côté et la relaxation d'une ablation laser, il arrive à contraindre les paramètres suffisamment. Donc je vous ai remis le même diagramme de phase de tout à l'heure. Ça, c'était mon paramètre gamma bar. Ça, c'était la tension. Ce qui est rouge ici, c'est la distribution. Et il considère que dans toute la région qui est rouge, c'est à peu près satisfaisant. Ce qui est bleu ici, c'est cette courbe-là. Et donc c'est satisfaisant dans cette région-là. Et puis quand on rajoute une troisième expérience, qui est l'ablation laser, ça contraint les paramètres de façon assez propre. Donc ça a été le premier à faire ça, et depuis les gens soit utilisent exactement cette méthode-là, soit utilisent des méthodes qui sont semblables. Ils mesurent beaucoup de propriétés géométriques ou des propriétés pour lesquelles ils ont des expériences. Ils essayent d'ajuster théorie et expérience, et on arrive à réduire le domaine de paramètres pour lesquels on ajuste toutes les expériences de façon assez propre. Ça veut dire que connaissant le tissu, on arrive à mesurer la tension de ligne que j'ai introduite de façon un peu phénoménologique à deux dimensions, et puis l'élasticité gamma. Donc voilà comment les gens, pour un problème biologique donné, arrivent à rendre quantitatif ce modèle-là, puis après, une fois qu'ils ont les paramètres, ils peuvent faire, j'allais dire, ce qu'ils veulent avec, changer certains paramètres, notamment changer localement les paramètres. De la façon dont je l'ai fait, j'ai supposé que le tissu était homogène, ça veut dire que toutes les élasticités étaient les mêmes pour toutes les cellules, et dans ce cas-là, à la fin, je finis avec trois paramètres, qui sont ces deux paramètres sans dimension, et puis l'air A0, qui est l'air préféré des cellules. Que je ne connais pas, parce que je ne sais pas, alors on peut la mesurer, hein, et il y a des spécialistes de mesurer ça, mais de la façon dont je vous l'ai décrit, je ne sais pas ce qui se passe sous la membrane apicale. Donc l'air n'est pas équivalent au volume de la cellule. Donc on a juste ces trois paramètres-là, en supposant que le tissu est homogène. Si le tissu n'est pas homogène, j'ai bien bien plus de paramètres. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple où le tissu n'est pas supposé comme homogène. Alors, dynamique, non. Mais parce que je vous ai dit qu'au niveau de la dynamique du tissu, non, parce que le modèle ne reproduit pas la dynamique du tissu, parce qu'à chaque étape, j'attends une relaxation quasi-statique. L'expérience d'ablation laser, on peut mesurer la vitesse à laquelle le lien disparaît, et ça donne une mesure de la tension locale du lien. Donc en faisant, et c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup ça, c'est qu'en faisant cette expérience d'ablation laser, je vais vous la montrer dans une seconde, on mesure la tension locale d'un lien avec une unité qui est arbitraire. Parce que ce qu'on mesure, c'est la vitesse de relaxation. Et si on fait un modèle très très simple, la vitesse de relaxation, elle est proportionnelle à la tension, puis il faut une friction aussi, comme qu'on n'ait pas la friction. On n'arrive pas, sauf dans des expériences extrêmement bien calibrées, à avoir une valeur absolue de la tension. Mais pour mesurer des rapports de tension, par exemple, c'est suffisant. Et vous allez voir que dans les exemples que je vais vous donner, on mesure beaucoup on a surtout besoin de rapports de tension plutôt que des tensions. Ça va comme ça ? Donc je vais passer à mon deuxième exemple. Alors, c'est la frontière entre les compartiments antérieurs et postérieurs de l'aile de la drosophile. Ça, c'est des expériences qui ont été faites dans le groupe de Christian Daman. Alors, l'expérience est là. Il y a une étape du développement où l'aile de la drosophile se divise en deux compartiments, un compartiment antérieur et un compartiment postérieur. Et ces compartiments expriment des gènes différents. Les biologistes, et je ne vais pas vous dire comment, savent marquer ces deux compartiments, et c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous avez le compartiment antérieur. Ici, vous avez le compartiment postérieur. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une frontière bien définie entre le compartiment antérieur et postérieur, et cette frontière joue un rôle. Elle joue le rôle de ce que les biologistes appellent un organisateur lors du développement de la drosophile. Ça veut dire qu'il est important que cette frontière reste bien droite ici et qu'elle ne soit pas trop rugueuse, parce qu'autrement, le développement ultérieur ne se passerait pas correctement. Donc on a des cellules loin à droite et loin à gauche, et puis le long de cette ligne, qui est la frontière réelle entre le compartiment antérieur et le compartiment postérieur, il y a un contact entre les cellules antérieures et les cellules postérieures. Alors, elles sont marquées en rouge ici, les cellules qui sont concernées. Ça, c'est les cellules qu'il appelle A1, et ça, c'est les cellules qu'il appelle P1. C'est la première ligne de cellules à partir de la frontière entre les deux compartiments. Alors, je vous ai promis une expérience d'ablation laser. Je recommence. Donc, il faut que vous regardiez. C'est une expérience réelle, hein. Le lien qui est là, qui a disparu depuis, est éclairé par une source laser intense. La membrane à cet endroit-là est détruite et les deux cellules fusionnent. Ça vient de se casser. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a une réorganisation après l'ablation laser, mais cette chose-là est assez quantitative. À une unité près qu'on ne connaît pas, on peut mesurer la tension de la liaison qu'on détruit. Et donc c'est ça qui a été fait dans les expériences précédentes que je vous montrais. Ils ont mesuré la tension de ce lien-là, et puis la façon dont c'est réarrangé, et ça leur a permis de faire la détermination finale des paramètres. Alors, ce qui est la partie un peu biologique de l'article, qui est ce qu'a fait l'équipe de Christian Daman, c'est de regarder les propriétés de ces cellules A1 ici et les propriétés de ces cellules P1, et de les comparer aux propriétés des cellules qui sont loin de l'interface. Alors, ce n'est pas très évident, mais à l'œil, en tout cas pour moi, mais si on regarde la courbe, c'est à peu près clair, ces cellules sont plus grosses. Donc les cellules à la frontière sont plus grosses que les cellules qui sont un peu loin de l'interface. Et puis l'autre chose qu'ils regardent, c'est la ligne de l'interface, et ils regardent l'angle entre deux liaisons, comme ça, et cet angle est plus grand sur la frontière que ce qu'il est loin de l'interface. Donc voilà les cellules A1, donc toujours pour 4, 5, 6, 7, 8. Voilà les cellules P1, voilà les cellules loin de l'interface des deux côtés, et loin de l'interface des deux côtés, c'est à peu près les mêmes propriétés. Et puis voilà la différence d'angle entre l'interface et puis une ligne verticale qui serait ici. Alors il y a deux expériences. Il y a une expérience qui est l'expérience avec la drosophile native, et puis un mutant de la drosophile qui exprime moins de myosine. Alors moins de myosine, ça veut dire que les liaisons sont moins actives, c'est-à-dire que la tension est plus faible. Donc celui-là a une tension plus faible. Et puis ce que leur apprend l'expérience d'ablation laser, c'est que la tension le long du lien qui est ici entre les cellules A1 et la cellule P1, donc la tension le long de la frontière entre les deux types de cellules, est plus grande que la tension des liens loin de la frontière, et il y a un facteur 2,5 expérimentalement. Donc c'est comme ça qu'ils vont utiliser leur modèle de vertex. Donc la première étape, c'est de le calibrer, comme je viens de vous montrer. Et puis après, ils ont pris ce facteur 2,5 et ils ont comparé ce qui se passe quand on met une tension de ligne que 2,5 fois plus grande le long de la frontière ici. Donc après, la façon dont c'est fait, donc il y a deux tissus, donc c'est pas des tissus, hein, c'est mon modèle de vertex. Les cellules A, elles sont en bleu ici. Les cellules rouges, c'est les cellules P. Ils apposent les deux tissus l'un contre l'autre et puis ils font la procédure que je vous ai décrite tout à l'heure. Alors ils l'ont fait pas simplement pour un rapport de tension 2,5, ils l'ont fait pour des rapports de tension qui est égal à 1, donc ça c'est la tension le long de la ligne divisée par la tension loin, 2,5 et 4. Alors je vous ai juste pris les films pour la tension 2,5 et 4. C'est à peu près le même type de film que celui que je vous ai montré au premier cours, sauf que cette fois j'ai deux tissus. Voilà le tissu qui croît, ça c'est quand le rapport des tensions est 1, et vous voyez que l'interface ne reste pas droite du tout, elle devient extrêmement rugueuse ici. Au sens où un physicien appelle une interface rugueuse, c'est-à-dire qu'on peut mesurer la position moyenne, puis on peut mesurer l'écart-type, et cet écart-type il va croître en fonction de la longueur de l'interface. Donc ça, c'est la courbe qui est faite ici. Pour lambda égale 1, en fonction de la taille de l'interface, plus je rends la longueur de la frontière grande, plus la rugosité devient grande. Et puis voilà quelque chose avec une tension 2,5, et effectivement, si on prend une tension 2,5, l'interface est beaucoup moins rugueuse. Donc le seul paramètre qu'ils ont changé là, c'est la tension des liens qui sont sur la frontière, et ça suffit pour diminuer de façon considérable la rugosité de cette interface-là. On peut essayer de regarder quantitativement, donc qualitativement ça marche bien, et ils n'ont fait aucune hypothèse, ça c'est juste ce qu'ils ont mesuré. Quantitativement ça ne marche pas très bien. Donc voilà ce qui se passe pour 1, voilà ce qui se passe pour 2,5, et les expériences sont là. Donc l'expérience avec le système natif est là, l'expérience avec ce mutant est ici. Alors il y a moins de myosine, s'il y a moins de myosine, les tensions sont plus faibles, et la rugosité doit être plus grande, donc le fait que la courbe verte soit au-dessus de la courbe noire, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Ils ont vérifié, en marquant les myosines, qu'il y avait moins de myosine sur ces liens-là. Et vous voyez que les deux résultats théoriques ici, qui correspondent à lambda égale 1, ça c'est quelque chose qu'ils ont fait comme contrôle, et ça c'est lambda égale 2,5, on n'est pas très près du résultat expérimental. Ils l'ont fait pour 4 aussi, et le résultat pour 4 est plus proche du résultat expérimental. Ils n'ont pas... Bon, il y a une discussion à la fin de l'article disant qu'il y a un certain nombre de processus biologiques qui sont différents dans les deux cellules et que ce n'est absolument pas pris en compte. La seule chose qui est faite là, c'est de dire que toutes les cellules sont identiques sauf la frontière. Et le seul endroit où on crée une différence, c'est à la frontière. Donc voilà comment les gens utilisent ce modèle de vortex dans ce cas-là. J'ai juste une remarque, il y a du rouge de ce côté-là et il y a du bleu de ce côté-là. Ça, c'est simplement quand les gens font une simulation numérique, ils prennent des conditions aux limites périodiques. Et donc, vous retrouvez, quand ça évolue ici, ça, c'est ce qui se passe ici, en fait. Donc, le bleu est vraiment à gauche et le rouge est vraiment à droite, mais ils ont rendu le système périodique. Et c'est un artefact de la façon dont est faite la simulation. Et il n'y a pas des cellules rouges qui se sont déplacées pour aller de l'autre côté, ici. Et voilà mon deuxième exemple. Alors, j'en ai un troisième, qui est la régulation de la croissance par la contrainte, qui est quelque chose que j'ai un tout petit peu discuté. L'idée de... Alors ça, c'est le premier auteur de l'article, c'est Madame Egerter-Willemsen. Je vous ai cité des propriétés géométriques pour calibrer le modèle, mais on pourrait demander à ce que le modèle explique des résultats expérimentaux pour des propriétés qui sont plus sophistiquées que les propriétés géométriques. Ce qu'a fait Madame Egerter-Willemsen, c'est qu'elle a regardé les cellules mitotiques. Alors, au niveau où je suis en train de parler, les cellules mitotiques, c'est les cellules qui sont en train de se diviser. Et en étudiant, donc toujours dans le disque imaginal de l'aile de la drosophile, en étudiant les cellules mitotiques, elle a observé deux choses. La première chose, c'est qu'il y a, je vais mettre un mot anglais horrible, mais qu'il y a un clustering des cellules mitotiques. Et puis la deuxième, c'est-à-dire que qu'on retrouve des cellules mitotiques au voisinage de cellules mitotiques, et puis que si on regarde le nombre de côtés d'une cellule mitotique, elles ont tendance à en avoir plus. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je voulais juste mentionner ça. Après, ils ont essayé d'expliquer ça, et la façon dont ils expliquent ça, c'est qu'ils ne choisissent plus les divisions au hasard, ils décident que le taux de division local dépend des propriétés mécaniques locales. Et la façon dont ils introduisent ça, c'est qu'ils mesurent l'aire moyenne pour une cellule à n côtés, ils regardent pour une cellule donnée l'écart avec l'aire moyenne et ils décident que le taux de division dépend de l'écart avec l'aire moyenne. Alors, comme dans le tissu, ce que je vous ai dit, c'est que le tissu était assez fortement désordonné. Localement, on va avoir des cellules plus grandes ou des cellules plus petites. Et maintenant, les cellules plus grandes vont se diviser plus que les cellules plus petites. C'est ça qui est caché derrière ça. Ils ne mesurent pas des propriétés mécaniques. C'est bien plus simple pour eux de mesurer une aire qu'une propriété mécanique. Donc, c'est de ça qui font dépendre le taux de division. Et en faisant ça, donc ils ont un paramètre ajustable supplémentaire, mais en faisant ça, ils arrivent à expliquer à la fois le fait qu'il y a des corrélations entre les divisions cellulaires et puis le fait que le nombre de côtés d'une cellule mitotique est plus grand que le nombre de côtés d'une cellule qui n'est pas mitotique. Donc on peut demander comme ça des propriétés de plus en plus sophistiquées des cellules et essayer d'ajuster le modèle de vertex avec des propriétés de plus en plus sophistiquées des cellules. Je trouve ça bien, mais ma réaction de physicien, c'est on rajoute des paramètres quand on fait ça quand même. Et le modèle de départ, il me plaît bien parce qu'il n'a que deux paramètres. Et ça, c'est facile à contrôler. Vous avez vu qu'avec trois expériences, j'arrive à peu près à déterminer les deux paramètres. Quand il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus difficile d'ajuster beaucoup de paramètres. Il y a cette citation de Philip Anderson, qui est un prix Nobel de physique. C'est avec quatre paramètres, on peut fitter un éléphant, et avec le cinquième, on peut lui faire bouger la queue. Et il y a un peu ça là derrière. C'est-à-dire, si vous introduisez trop de paramètres, vous ne savez plus trop ce que vous faites, et vous allez pouvoir trouver beaucoup de solutions du problème que vous regardez, simplement parce que vous avez un espace qui est redondant. Donc c'est un peu ça la limitation que je veux voir, mais je suis très persuadé que c'est un effet important, la dépendance en propriété mécanique de la division cellulaire, et c'est, à ma connaissance, le premier article qui s'est intéressé à ces propriétés-là à partir de ce modèle de vertex. Donc, je vais m'arrêter là pour le modèle de vertex à deux dimensions. Ce que je veux faire maintenant, c'est passer au modèle de vertex. Oui, Pascal. Il n'y a pas d'horloge du tout dans ce modèle-là. Il n'y a pas de temps dans ce modèle-là. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'à chaque étape, c'est ce que je disais, hein, je regarde une division, donc je coupe une cellule en deux, en évitant les liaisons à quatre brins. Et après, pour chaque cellule que j'ai générée, je dis, elle est très loin de son aire moyenne, parce qu'en gros, elle est deux fois plus petite. Donc je lui force à avoir une aire moyenne qui est l'aire à zéro. Je laisse le tissu relaxer. C'est une perturbation qui est grande, donc ça peut déclencher des processus T1, T2 et des choses comme ça. Mais j'attends que c'est relaxé complètement. Et une fois que c'est relaxé complètement, j'ai un tissu qui est à nouveau dans un état métastable. Il y en a plein, donc il est très différent de l'état métastable précédent. Et je recommence. Donc il y a zéro temps dans ce mécanisme-là. Et même le temps Monte Carlo, parce qu'il y a des problèmes pour lesquels on peut utiliser le temps de la simulation, il n'a pas de sens pour ça, parce que la relaxation, elle n'est pas du tout temporelle. On ne regarde que l'état final. OK, donc ce que je veux regarder maintenant, c'est des modèles de vertex à trois dimensions. Donc, je vais essayer de m'affranchir du fait que, jusque-là, je n'ai regardé que la surface apicale des cellules et que j'ai essayé d'inférer les propriétés des cellules à partir de la surface apicale. Alors, je vous montrerai après qu'il y a des cas où on peut se limiter à ce cas-là. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, je veux revenir au vrai problème à trois dimensions. Donc, je vais regarder une monocouche épithéliale, c'est grand 3, des cellules qui sont à trois dimensions. Ça, c'est la surface que je montrais jusque-là. Je vous rappelle qu'en dessous, il y a une membrane basale. Je n'ai pas de deux couleurs, mais ici, en dessous, j'ai une membrane. Ça, c'est la surface apicale. La surface entre deux cellules, je vais appeler ça la surface latérale. Et puis, il y a une surface basale qui est la surface en contact avec la membrane basale. Une chose dont je vais assez peu parler, mais qui est quand même importante, d'abord, c'est que les cellules adhèrent assez fortement sur la membrane basale, ça, je vais le mentionner. L'autre chose, c'est que la membrane basale, elle est assez rigide, donc elle a tendance à rester plate. Donc, le fond, le côté basal de la monocouche, c'est une surface qui est à peu près plate. Alors, je vais simplifier le problème, simplement pour arriver à vous donner des arguments un peu plus quantitatifs au départ. C'est, je vais supposer que mon système, il est dans un état hexagonal régulier. Donc ça veut dire que sur la surface ici, j'ai des hexagones et que ces hexagones sont tous les mêmes. Je vous ai montré que ça, c'était l'état fondamental à deux dimensions dans certains cas. Je vais me placer dans ce cas-là. Ce que je veux, c'est essayer de décider à partir de ça quel va être le comportement du tissu. Et puis aussi, ce après quoi je suis, c'est comment est-ce que je peux réduire ça à un problème à deux dimensions à partir de ce problème à trois dimensions. Alors maintenant que c'est un problème à deux dimensions. À trois dimensions, j'ai deux tailles. Il y a un rayon ici, que je vais appeler petit r. Alors, c'est le rayon à partir du centre, mais c'est aussi le côté de l'hexagone. Et puis, il y a une deuxième taille, que je vais appeler h ici. Et ma stratégie, ça va être exactement la même que celle que j'avais à deux dimensions. Ça veut dire que je vais écrire une énergie mécanique et je vais dire qu'il y a équilibre des forces et qu'à cause de cet équilibre des forces, l'énergie mécanique doit être minimale. Alors avant ça, il faut que je vous donne des propriétés géométriques. Si vous regardez l'aire basale ici, que je vais appeler A, ça c'est l'aire de la base qui est plate. Cette aire-là, A, alors je vous laisse faire le calcul, mais ce que j'ai trouvé moi, c'est R2, 3 puissance 3 demi sur 2. Et puis il y a une aire latérale de chaque cellule, ça c'est l'aire qu'elle échange, qu'elle présente à toutes les cellules voisines, que je vais appeler l'aire latérale. Ça c'est 6 fois RH, ça c'est évident hein, parce que c'est des rectangles. C'est un rectangle de côté R et de hauteur H. Donc l'aire d'une face, c'est RH. Et comme il y a 6 faces aux hexagones, ça fait 6 fois RH. Donc je n'ai pas inventé grand-chose. Ce que je veux écrire, c'est une énergie mécanique. Alors, pour une cellule, je vais l'appeler petit e. J'écris l'énergie pour une cellule et elles sont toutes identiques. Donc je peux toujours me ramener à une cellule. Je vais supposer que les cellules ont un volume préférentiel. Donc il y a un volume V0. Puis je vais écrire, comme je l'avais fait pour la surface, je vais écrire 1 demi de K, V moins V0 carré sur V0. C'est quelque chose ça, que je contrôle bien mieux que le même paramètre à deux dimensions. Les cellules ont vraiment un volume qu'elles ont envie d'avoir. On pourrait discuter d'ailleurs de qu'est-ce qui fixe le volume d'une cellule. C'est un problème sur lequel on a passé pas mal de temps à réfléchir. On y réfléchit en ce moment avec Pierre Sens. Mais il y a il y a un volume que les cellules préfèrent d'avoir qui est lié aux échanges d'ions et aux effets osmotiques avec l'extérieur à l'ordre zéro, disons. Après, il y a des choses bien plus subtiles qui rentrent en jeu, mais c'est ce genre de paramètres qui vont fixer ce volume zéro. Et ça, c'est une compressibilité qui est associée. Et je vais faire comme à deux dimensions, je vais supposer que la compressibilité est infinie, donc le module de compression tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est ce qui fixe le volume de la cellule. Et puis après, j'ai des tensions de surface. Alors, j'ai une tension de surface du côté basal, je vais appeler ça gamma B fois A. Il y a une tension de surface du côté apical. Il y a une tension de surface latérale entre les cellules voisines. Donc ça, c'est l'aire latérale fois l'air latéral, fois la tension latérale. Et puis, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'au voisinage du haut de la cellule, il y a un câble d'actine. Donc, il y a un câble d'actine qui tourne ici, avec une tension finie lambda. Donc, je vais rajouter ce terme plus lambda fois P. Je vais le faire simplement. Je vais supposer que lambda est constant. Je vous rappelle qu'à deux dimensions, j'avais dit que la tension dépendait des propriétés locales de la cellule, et j'avais rajouté un terme linéaire en périmètre en disant que la tension, c'était ce terme lambda P plus un terme gamma fois P2. On peut rajouter des termes comme ça. Si je considère que le tissu est parfaitement homogène, ça ne va rien changer à ce que je vous dis, donc je ne vais pas le faire, mais dans les simulations numériques que je vous montrerai après, les gens se sont inquiétés de ce problème-là et font dépendre cette tension-là des propriétés de la cellule. Je vais supposer que c'est constant, et pour les propriétés que je vais discuter, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà mon tissu parfaitement régulier et hexagonal ici. La tension basale est là, ça c'est la hauteur. Il y a un câble d'actine ici, et je mets une tension apicale de ce côté-là. Ce qui est écrit ici, ce n'est pas la tension latérale, c'est l'adhésion latérale. L'adhésion, c'est l'opposé de la tension. Donc alpha L, c'est moins gamma L. Je vous rappelle ce que j'ai dit au cours précédent ou au cours d'avant, c'est que chacune de ces tensions a deux contributions. Il y a une contribution qui est due à la couche corticale d'actine et de myosine, ça c'est une contribution positive. Ça c'est la couche d'actomyosine. Alors elle est mise sous tension par les moteurs moléculaires, ils consomment de l'énergie, et ils tendent à contracter la couche d'actomyosine parallèlement à la surface. Ça crée une tension positive. Et puis il y a une tension négative qui est l'adhésion. Alors l'adhésion, elle n'existe qu'à deux endroits, elle n'existe pas pour les trois tensions, elle existe pour la membrane basale, elle existe pour la membrane latérale, il y a une adhésion entre les cellules, il y a des molécules qui s'appellent les cadhérines qui créent cette adhésion entre les cellules, et puis avec la membrane basale, c'est plutôt des intégrines qui vont accrocher la membrane basale les cellules sur la membrane basale. Ça veut dire que la tension totale, gamma B, gamma et, ou gamma L, peut être soit positive, soit négative. Je vais supposer que gamma L est positif, ce qui semble être le cas dans beaucoup de problèmes. Par contre, je vais supposer que gamma B est négatif. Si gamma B est négatif, on gagne de l'énergie en faisant des cellules qui ont une aire très grande. Ça veut dire qu'on a tendance à faire des cellules qui sont très aplaties comme ça. Si je rends gamma B négatif, je favorise ça. Si je fais toutes les tensions apicales et basales positives, je vais favoriser des cellules très très allongées dans l'autre sens. Donc avant de discuter la forme des cellules, je vais discuter l'aire apicale et l'aire basale. L'aire apicale et le volume des cellules. D'abord, l'aire apicale. Alors, je vais le faire en vous montrant un petit dessin qui est ici. Ça, c'est des expériences qui ont été faites par Nicolas Armand, qui est au dernier rang là-bas, qui se cache, que je suis content de voir aujourd'hui. Ça, c'est sa thèse. Ce qu'il a étudié, c'est des cellules, alors qui ne sont pas des cellules à drosophiles, celles-là, c'est des cellules qui s'appellent MDCK, qui sont des cellules de reins de chien, qui sont une lignée de cellules cancéreuses que les gens utilisent, parce que surtout les physiciens, parce qu'elles sont assez faciles à étudier, mais c'est un très très bon modèle. Et il fait des monocouches sur un substrat solide de ces cellules-là. Alors, il a fait des choses bien plus sophistiquées que ça. Je vais juste vous montrer le cas simple, où ce qui joue le rôle de la membrane en bas est complètement plan. Et vous voyez, ça c'est une coupe comme ça, donc de côté. Le côté basal est là, le côté apical est là, et le côté latéral est ici. Alors les deux cellules ont à peu près la même pression, donc la surface latérale est plane. Ici c'est une surface solide, donc la surface basale est plane. Par contre, la surface apicale n'est pas plane. La surface apicale n'est pas plane parce qu'elle a une tension positive, il y a une pression à l'intérieur. Et donc ça fait, si la pression est constante, ça fait un morceau de sphère comme ça. Ou ça serait un morceau de sphère si la base était un cercle. Et comme la base est un hexagone, ça fait une surface compliquée. Alors, je vais refaire le dessin qu'il y a là avec mes notations à moi, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc voilà, ça c'est la membrane latérale, ça c'est la membrane apicale, et je ne m'intéresse pas à la membrane basale. Ici, il y a une tension de cette surface-là. La tension de cette surface-là, avec notation, c'est 2 gamma L, parce que chaque cellule a une tension gamma L, donc la tension ici, c'est 2 gamma L. vais mettre un vecteur parce qu'elle tire vers le bas si elle est positive. Et puis, cette tension superficielle-là, la tension apicale, elle est forcément positive parce qu'il n'y a pas d'adhésion. Alors, elle est orientée le long de la tangente ici. Et puis, la ligne qu'on voit au-dessus est à l'équilibre mécanique. Ça veut dire que les forces doivent s'équilibrer. Je vous ai dit au début que j'aimais bien les problèmes de mouillage. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi du triangle de Neumann dans les problèmes de mouillage. Je n'ai pas de problème avec la force horizontale si je suppose que les cellules sont identiques. Elles se compensent, mais la tension 2 gamma L doit compenser 2 gamma A cosinus θ. Donc gamma L, c'est gamma A cosinus θ. Ça veut dire ça que l'air ici, ce n'est pas tout à fait une sphère parce que la base de l'air est un peu compliquée, il y a un angle compliqué. Mais quoi qu'on fasse, l'air apical, c'est R2 fois une fonction de θ. Alors je vais mettre pi R2 fois une fonction de θ. Cette fonction, je la connais si l'angle est égal à pi sur 2, parce que si l'angle est égal à pi sur 2, elle est plate. Donc c'est exactement R2 fois le facteur 3 puissance 3 demi sur 2 que j'ai trouvé ici. Elle est plus petite que 2 pi R2, parce que en faisant des petits dessins, en tout cas moi je me suis persuadé que c'était plus petit qu'une sphère de rayon R. Donc ça veut dire qu'elle est un peu plus petite que 2 pi R2. Je vais oublier cet effet-là dans la suite. Je vais même faire des choses qui vont vous paraître bizarres. Je ne vais pas écrire les coefficients numériques. Ce n'est pas grave d'oublier cet effet-là. Je pourrais le rentrer dans les tensions de surface. C'est-à-dire je pourrais dire que ça, c'est R2. C'est R2 fois un nombre. Et puis le nombre, je le mets dans la tension de surface. Donc je fais semblant d'oublier les coefficients numériques, mais je pourrais les remettre. Ça a un autre effet, ça. C'est que le volume de la cellule, V0... ou V, c'est l'air basal A fois H, plus un petit delta V, où delta V, c'est le volume de la coupole que j'ai mis ici. Alors c'est facile de se persuader que delta V, c'est R au cube, fois une fonction de θ. Je vais oublier cet effet-là, ça n'ajouterait rien, ça compliquerait ma discussion, donc je vais supposer que cette sphère est assez plate. C'est aussi le cas si j'ai une cellule qui est très allongée dans ce sens-là, il n'y a absolument aucun problème. Et si elle est très plate, ça ne dépend pas de ce que je mets. Donc il n'y a absolument aucun problème. Donc je vais oublier cet effet-là et je suppose que V égale constante. Donc je vais supposer que V0, c'est A fois H. Je vous ai mis une deuxième image de la thèse de Nicolas Armand qui est au-dessus. Il a regardé les angles en faisant une coupe comme ça. Maintenant, si on regarde la surface du haut, sur la surface du haut, le long de chaque lien, vous avez une tension. Et puis, à chaque point ici, les tensions doivent être équilibrées. Donc, vous avez des contraintes entre les tensions qu'à chaque lien ici, la somme des trois vecteurs qui représentent les tensions doit être égale à zéro. Ce qu'a fait Nicolas, c'est qu'il a analysé des images comme ça, il a imposé toutes ces contraintes et il a essayé de déterminer au mieux, de supposer que le tissu n'était pas homogène et de déterminer la distribution de tensions dans un tissu comme ça. Alors je vais oublier ces effets sophistiqués. Il y a des analyses qui sont un peu subtiles à faire. Moi je prends un hexagone. Si c'est un hexagone, les tensions sont égales, les angles sont égaux à 120 degrés ou 2 pi sur 3. Et donc je n'ai pas de problème comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte plus proprement. Alors, je vais réécrire l'énergie d'une cellule en fonction du rayon R. Donc je suppose que l'air apical est égal à l'air basal et il y a une tension qui apparaît qui est la somme des deux tensions. Donc je vais mettre gamma fois R2 où gamma c'est gamma A plus gamma B. Et comme je disais, je ne mets plus de coefficients numériques ou je les inclus dans gamma comme vous voulez, c'est pareil. Il y a un terme lambda fois R. Et puis il y a un dernier terme qui vient de la tension latérale. L'air latéral c'est 6RH, donc si j'oublie le coefficient numérique, ça fait gamma L fois RH, mais je sais que AH, c'est V0. Donc H, c'est V0 sur R2. Donc ça, c'est l'énergie mécanique en fonction de la taille de mon hexagone, enfin du ce que j'ai appelé le rayon de mon hexagone. Et ce que je veux, c'est minimiser cette énergie mécanique par rapport au seul paramètre que j'ai, qui est ce rayon R qui est là. Donc dans un premier cas, je vais supposer que gamma et gamma L sont positifs. Donc ça sera E en fonction de R. Si R est petit, c'est ce terme-là qui domine. Il est décroissant. Et les deux autres sont croissants, donc ça va faire quelque chose comme ça. Et très loin, ici, c'est une parabole. Donc ici, c'est gamma R2. Et ici, c'est gamma L, V0 sur R. Bon, après, c'est assez facile d'obtenir le minimum. Donc le minimum, ça me donnera la taille à l'équilibre mécanique des cellules. En pratique, soit ce terme-là qui est décroissant est compensé soit par celui-là, soit par celui-là. Donc il y a deux cas. Si lambda est grand, c'est ce terme-là qui va compenser le terme latéral. Et si lambda est petit, c'est celui-là. Donc si lambda est grand... Alors je vais vous écrire la vraie formule. C'est V0 gamma L sur lambda à la puissance 1/2. Et puis si lambda est petit, ça ne dépend pas de lambda, ça dépend de gamma. Donc c'est gamma L V0 sur R gamma. Gamma L V0 sur gamma à la puissance 1/3. Il va de soi, et on aurait pu le deviner dès le début, que si je diminue la tension du câble d'actine, ou si je diminue la tension apicale et la tension basale, le rayon va augmenter. Plus la tension gamma est petite, plus le rayon augmente. Et plus lambda est petit, plus le rayon augmente. Si gamma L est petit, le rayon diminue, parce que si gamma L est petit, ça favorise la surface des aires latérales, c'est elle qui croît. Et donc, c'est la hauteur qui augmente, et comme le volume est constant, ça veut dire que le rayon diminue. Donc, en changeant lambda ou gamma, je vais déplacer ce paramètre en les rendant plus petits. Je vais le rendre de plus en plus grand. Il y a un autre jeu de paramètres qui est intéressant. Je vous ai dit que la tension basale peut devenir négative. Donc, je vais supposer qu'elle est tellement négative que la tension apicale et plus la tension basale est négative. Donc, si gamma est inférieur à 0, je vais retracer l'énergie en fonction de R. Si R est petit, c'est ce terme-là qui domine, il décroît. Ensuite, il y aura un terme en lambda R. Et puis, si R est grand, ce terme est en R2, mais gamma est négatif, donc ça décroît. Et ça veut dire que le minimum, c'est moins l'infini. Le minimum moins l'infini, ça veut dire que la cellule est très très étalée et que l'épaisseur est très faible. Évidemment, je ne peux pas arriver à des épaisseurs qui sont à peu près égales à zéro, parce que la cellule n'est pas vide, et il y a plein de matériel génétique à l'intérieur de la cellule, et donc il faut confiner tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, et il y a une énergie de compression de la cellule. Alors cette énergie de compression de la cellule, elle doit devenir très grande quand j'essaie d'écraser la cellule complètement. Donc, je vais vous écrire une forme, et puis je vais vous expliquer pourquoi on a pris cette forme-là. Donc, je vais écrire une énergie de la forme alpha divisé par Hb. Ce qu'il y a dans la cellule, il y a le noyau, il y a des systèmes de membranes, et puis il y a tout un tas de protéines et de polymères. Il s'avère que si vous prenez un polymère et que vous le confinez entre deux surfaces comme ça, l'énergie de confinement est en 1 sur H2. Donc ce que je fais là, c'est que je suppose que ce qui domine la compression, c'est les polymères qui sont à l'intérieur de la cellule. C'est une hypothèse un peu gratuite, c'est ce que je sais faire de plus simple. On peut essayer n'importe quelle loi de puissance ici, et qualitativement, tous les résultats que je vous dis sont encore vrais si on prend n'importe quelle loi de puissance. Donc ma justification, c'est qu'il y a plein de polymères dans la cellule, ça c'est absolument incontestable, que quand j'écrase la cellule comme ça, je vais confiner tous ces polymères, et donc je vais prendre une énergie qui varie comme ça serait pour un polymère en 1 sur H2, puis après il faut que je multiplie par le nombre de polymères, bien sûr, et il est caché dans ce coefficient alpha qui est là. Ça reviendrait au même. On a tout essayé et tout donne la même chose. Pour moi, c'est ça qui est le plus facile à justifier. Puis tu vas voir que j'ai une autre raison de prendre ça, qui est plus mathématique qu'autre chose, mais qui va me permettre de discuter la transition avec les modèles de vertex à deux dimensions. La question d'Hervé, c'est... bien sûr, je vous dis que je suis en train de comprimer la cellule comme ça, mais je pourrais aussi la comprimer dans l'autre sens, et je pourrais faire une cellule qui est très, très allongée, donc où H serait très grand. Bien sûr, on peut rajouter un terme comme ça. J'en ai pas besoin ici. Il va arriver ici, très loin du minimum, et donc ce n'est pas lui qui va dominer. J'en aurais besoin si ça devenait négatif ici. C'est-à-dire si gamma L devenait négatif. Mais si gamma L est négatif, mon petit dessin là-haut est plus valable, parce que la tension, elle tire plus vers le bas, elle tire vers le haut, des choses comme ça, donc je n'ai pas trop envie de rentrer. Et puis si gamma L est négatif, comme tu me le faisais remarquer la dernière fois, moi j'en étais conscient, ouais. La surface peut devenir instable, donc il faut qu'elle soit suffisamment rigide, donc je n'ai pas envie de rentrer dans des considérations comme ça. Donc je suppose que gamma L est positif, je pourrais rajouter le terme, je pourrais mettre plus bêta sur R2 si tu veux, ça, il serait complètement négligeable ici. Donc si je rajoute ce terme, H c'est V0 sur R2, ça veut dire qu'il y a un E supplémentaire qui est alpha sur V0 carré, R4. Donc ici, c'est en moins 1 sur R2. R4, ça remonte. Donc ça veut dire que c'est comme ça. Et maintenant, j'ai deux minimums. J'ai un minimum pour des cellules à petit rayon ici. Ça Ça, c'est des cellules qui vont être allongées. Et puis, j'ai un minimum pour des cellules à grand rayon. C'est des cellules qui vont être écrasées. Et j'obtiens ce minimum parce que je n'autorise pas les cellules à s'écraser complètement. Évidemment, si vous êtes physicien, ici, quand je change les paramètres, le rayon va augmenter de façon continue. Ici, j'ai deux minima. Dans cette situation-là, c'est ce minimum-là qui est le plus bas. Donc, les cellules vont être dans cette forme-là. Ça veut dire qu'elles vont être très, très étalées. Et puis, quand je change les paramètres et que je remonte ce minimum-là, celui-là va devenir plus bas. Il va y avoir un saut discontinu. Donc, si vous voulez, là, j'ai une transition continue ou une transition du deuxième ordre entre une cellule qui est sous forme de colonne, comme ça. Ça s'appelle des cellules columnaires. Ça, c'est des cellules très, très allongées. Et puis, des cellules qui sont très, très écrasées. Celle-là, elle s'appelle, alors j'ai appris le mot il n'y a pas longtemps, elle s'appelle pavimenteuse. Donc, celles-là, elles sont très écrasées. Ça, c'est H. Inférieure à R. Alors j'ai un peu massacré le calcul, hein, exprès d'ailleurs, parce que j'aime bien minimiser les énergies en comparant les termes un par un, ça permet de faire des choses très simples. On peut faire le calcul propre. Donc ça c'est un de nos anciens thésards, Edouard Anzo, qui avait fait ça. Alors, ici ce qui est fixé c'est gamma B. Donc la tension basale est fixée, la tension apicale est fixée à zéro, ou si vous voulez c'est gamma qui est négatif et il est très grand. Donc les cellules ont tendance à s'étaler de façon importante. Il est égal à moins 15 dans les unités qui sont choisies. Quand gamma L est positif, alpha est négatif, vous avez un seul minimum. Et donc on passe de cellules très étalées qui sont celles-là. Alors un exemple d'épithélium pavimenteux, c'est les épithéliums du poumon, à des cellules qui sont columnaires. Et l'axe ici... c'est le paramètre qui est varié pour passer de là à là, c'est la tension du câble d'actine. Ici, il n'y a pas de tension du câble d'actine, et ici, il y a une tension gigantesque. Quand la tension est gigantesque, on a envie d'écraser la cellule, et on fait des colonnes. Les colonnes, on les trouve dans l'intestin, et on passe par cette structure intermédiaire qui s'appelle des structures cuboïdales, où les rayons RH sont à peu près du même ordre de grandeur. Et puis, si vous prenez gamma L négatif, on arrive à des transitions discontinues. Et on peut faire un diagramme de phase. Ici, c'est discontinu et tout autour, c'est continu. On peut étudier ça très, très en détail. Il y a un point très critique qui est là. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. La seule chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'on passe d'un épithélium pavimenteux à un épithélium columnaire, par exemple, en variant ce paramètre lambda. Quand lambda est grand, on a l'épithélium columnaire. Quand lambda est petit, on a l'épithélium pavimenteux. Si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire si gamma est positif, la transition est continue. Donc on voit des cellules intermédiaires ici. Si gamma est négatif, on est dans ce cas-là. La transition est discontinue. Et donc les cellules columnaires, elles seraient à peu près par là. Et ça, c'est un état instable. Donc on ne voit pas de cellules cuboïdales quand l'adhésion sur la surface basale est trop importante. Donc voilà des prédictions. Il y a eu des expériences qui ont été... commencer d'ailleurs dans le labo du Hans Belaïch pour essayer de vérifier ces choses-là. Quand on est dans cette région-là, on voit avoir des endroits où les cellules sont columnaires et des endroits où les cellules sont cuboïdales. Ça, c'est vrai si les deux minimums sont égaux. Alors, un moyen, et c'est exactement ce que je vais dire maintenant. D'abord, je vais faire une remarque sur l'énergie de la cellule. Et puis après, je reviendrai exactement à ce que tu veux. Je vais parler de la tension du tissu. Mais d'abord, je voudrais faire cette remarque. Donc, je vais écrire énergie totale de la cellule. Donc, il y a un terme en gamma R2, ça c'est gamma A. Ensuite, je vais écrire celui-là. R4, c'est le carré de l'air. Donc, ça c'est gamma alpha sur V0 carré plus lambda fois R plus R terme de lambda. Et puis, j'ai un dernier terme qui est l'air latéral. Ça, c'est H fois R. Donc, je peux l'écrire lambda plus gamma H. Donc j'ai rien fait là, j'ai juste réécrit l'énergie de façon différente. Et vous voyez que ça ressemble furieusement à ce que j'avais pour ma théorie à deux dimensions de modèle de vertex. Ça, c'est le début du développement de A moins A0 au carré. Donc le A0 au carré, c'est une constante. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Et puis ici, j'ai un terme proportionnel au périmètre. Alors c'est proportionnel au périmètre si gamma L fois H est inférieur à lambda. Je retrouve le modèle de vertex à deux dimensions. Donc mon critère pour que je puisse utiliser le modèle de vertex à deux dimensions, c'est que gamma L soit petit Et si gamma L soit petit, ça veut dire que les cellules sont écrasées, ne sont pas vivanteuses. Donc le modèle de Vertex à deux dimensions, il est vrai pour les cellules pavimenteuses. Il n'est pas vrai pour les cellules columnaires. Il n'est pas vrai pour les cellules columnaires parce que la surface latérale est importante. Et dans le modèle à deux dimensions, je ne parle même pas de la surface latérale. Donc voilà mon critère pour utiliser le modèle à deux dimensions, c'est qu'il suffit de regarder des cellules qui sont pavimenteuses. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de m'inquiéter des surfaces latérales parce que la surface latérale est toute petite. Hein, c'est ça la raison. Alors, juste en un mot, maintenant, je voudrais parler de la tension du tissu. Alors, comment est-ce que je définis la tension du tissu? Je vais la définir par gamma. Alors, la pression, c'est moins la dérivée de l'énergie par rapport à l'air. La tension, c'est l'opposé de la pression. Donc, ça va être plus la dérivée de l'énergie par rapport à l'air. Donc, c'est plus dE sur 2RdR, où j'écris en oubliant mes coefficients numériques, que l'air, c'est R2. Et donc, dA, c'est 2RdR. Alors, donc je vais reprendre l'énergie qui est là. Gamma, si je dérive par rapport à R, ça fait 2R gamma. Je divise par R, ça fait gamma. Ça vous dit que ça, c'est bien une tension de surface. Et s'il n'y avait que la surface latérale et la surface basale, ce que je mesurais avec la tension, c'est bien la tension de surface de l'air supérieur et de l'air intérieur. Ça, c'est la force qu'il faudrait appliquer pour maintenir l'air R à l'équilibre. Plus. Alors, lambda... R, quand j'arrive par rapport à R, ça fait lambda, donc ça fait plus lambda sur 2R. Et le troisième, ça fait moins gamma L V0 sur 2R3. Alors, je vais vous tracer ça, grand gamma, en fonction de R. Vous m'accorderez que si R est infini, je vais retrouver la valeur petit gamma. Donc, j'ai une asymptote ici. À petit R, c'est ce terme-là qui domine, donc ça fait quelque chose comme ça. Il y a un maximum, gamma max ici, et après, ça redécroît. Et ici, comme la cellule est très grande, la seule chose qui compte, c'est l'air du haut et l'air du bas, et donc je retrouve bien la tension gamma. Là, le tissu est à l'équilibre sans force extérieure quand la tension est nulle, donc ça, c'est l'état que je viens de calculer pour le tissu. Écrire que la dérivée de l'énergie est égale à zéro, ou écrire que la tension est égale à zéro, c'est la même chose. Donc ça, c'est ce que je viens d'appeler R0. Et après, si je tire sur le tissu, donc il y a des... Johannes me disait à midi qu'il y a une façon de le faire, c'est de le poser sur du PDMS et de tirer sur le PDMS. Alors lui, il fait l'inverse, il comprime le tissu en relâchant le PDMS. Alors si je le relâche, je vais créer des tensions négatives, ça veut dire que le tissu va pousser, il va avoir une pression finie. Ce qui va m'intéresser, c'est d'augmenter la tension. Tant que je suis en dessous, si gamma est inférieur à si grand gamma est inférieur à gamma max, j'ai une taille d'équilibre. Bon, un gamma donné, c'est cette taille-là. Et puis si gamma est plus grand que gamma max, il n'y a plus de taille d'équilibre, ça veut dire que je tire tellement fort que je vais étirer toutes les cellules complètement. Alors j'ai le même problème que quand gamma B était négatif, ça veut dire que je rends les cellules infiniment plates, et si je rends les cellules infiniment plates, il faut que je m'inquiète de ce que je confine à l'intérieur, donc il faut que je rajoute l'autre terme. Donc mon terme en alpha sur V04R4, ça va faire 4 alpha sur V04R2. Et ce terme-là, il fait la même chose que tout à l'heure. Hein. Il empêche le confinement, il fait quelque chose comme ça. Maintenant, quand je dépasse gamma max, je vais sauter là. Et là, il se passe exactement ce que tu disais. Dans beaucoup de cas, j'aurai des cellules columnaires ici. Et quand je tire, je vais transformer les cellules columnaires en cellules pavimenteuses. Et petit à petit, si j'impose le R, j'aurai de plus en plus de cellules pavimenteuses. Et arrivé ici, toutes les cellules seront très confinées dans cet état-là. Donc, une autre façon de rendre le tissu très plat, c'est de tirer dessus. Et puis si vous comprimez, ben, vous faites l'inverse, hein, vous partez de cellules pavimenteuses ici, et puis vous arrivez aux cellules qui sont columnaires et qui sont là. Donc voilà ce que je voulais dire sur les tissus qui sont plats, et c'est l'heure. Donc je vous parlerai la semaine dernière de ce qu'on appelle des cystes, c'est des tissus qui sont courbés et qui ont tendance à se mettre sous forme de sphère. Je vous remercie.